Nous sommes rejoints par téléphone par Maud du projet Accompagnement Solidarité Colombie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on t'a invité aujourd'hui à l'émission pour par rapport à une situation qui a eu lieu en Colombie et un communiqué conjoint de plusieurs organisations qui a circulé récemment suite à l'assassinat du père Reynel Restrepo à Marmato, en Colombie, qui était un opposant aux minières canadiennes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette personne et de sa situation?
Oui, alors pour comprendre un peu la position dans laquelle se trouvait Reynel Restrepo, le curé du village de Marmato, faut savoir un peu l'histoire de Marmato. Donc, c'est un petit village qui est situé dans le département de Caldas, en Colombie, où il y a historiquement toujours eu de l'exploitation minière. Donc, dès que les Espagnols sont arrivés et qu'ils ont mis en esclavage la population autochtone de la région, ils ont exploité des mines à Marmato. Donc, ça fait plus de 500 ans qu'il y a de l'exploitation minière. Par contre, les Espagnols étant partis, du moins sur le terrain, ce sont les descendants des esclaves africains et les descendants des esclaves autochtones qui avaient été forcés de travailler dans la mine qui ont continué l'exploitation artisanale des gisements d'or à Marmato. Donc, c'est un village qui vit de l'activité minière artisanale. Plus de 6000 personnes dépendent directement de l'activité artisanale minière pour leur subsistance. Donc, les problèmes commencent quand les compagnies transnationales de l'industrie minière achètent des concessions dans la région. Et ce sont les Canadiennes, en fait, qui vont faire incursion dans le territoire. En 2005, on a la Colombian Goldfields qui va commencer à acheter plusieurs concessions minières dans la région de façon frauduleuse selon les organisations sociales du coin, puisque ces concessions ne pouvaient pas être vendues à des firmes étrangères selon les règlements en vigueur dans la région de Caldas. Ces concessions minières-là étaient destinées seulement à des activités de subsistance. Donc, on parle ici d'une activité minière artisanale qui a pour but de donner de quoi vivre aux familles qui habitent là et non d'une exploitation à grande échelle par des entreprises étrangères qui vont envoyer les profits à l'extérieur de la Colombie. Donc, c'est deux choses vraiment différentes. La Colombian Goldfields commence donc à acheter des terrains en 2005. Je vous passe les détails des fusions et défusions entre compagnies canadiennes, mais en 2010, c'est en fait la Mineral Resources qui a terminé l'achat de toutes les concessions minières dans la région. Pour ce que prévoit la Mineral Resources, pardon pour l'accent, c'est une exploitation de mines à ciel ouvert, donc une exploitation d'or qui demande de toute la montagne de Marmato, en fait le village construit autour d'une montagne. Alors, on voudrait ouvrir entièrement cette montagne-là pour exploiter les gisements d'or. Et de ce fait, il faut déplacer tout le village de Marmato. C'est impossible de faire une mine à ciel ouvert et laisser les gens vivre en dessous. La compagnie en est très consciente. Donc, un peu avant 2010, on va commencer à circuler des rumeurs comme quoi il faut déplacer tout le village. Même les autorités municipales, les autorités du département vont être complices d'une certaine campagne de propagande mensongère où ils vont envoyer des communiqués alerte en disant « la campagne est sur le bord de s'effondrer, il y a un danger imminent pour la vie des habitants, on demande à tout le monde de quitter l'endroit immédiatement ». Alors, il y a un premier déplacement qui va se faire et puis certaines organisations de la région vont être plutôt sceptiques, disons, face à cette alerte et vont commencer à faire des pressions sur les représentants de la compagnie minière pour savoir s'ils veulent réellement faire une mine à ciel ouvert et c'est pas pour ça, finalement, qu'on demande à la population de se déplacer. La Mineral Resources va dire que non, qu'il n'est pas question de mine à ciel ouvert, que non, non, non. On va apprendre plus tard. D'une part, qu'il n'y a eu aucun examen, je connais pas les termes techniques, sismographique, je pense, qui aurait pu déterminer un effondrement de terrain. Donc, c'était vraiment une fausse information. Et on va apprendre également qu'en effet, la Mineral Resources prévoit l'ouverture d'une mine à ciel ouvert. Peut-être mentionner que là, je vous parle de la Mineral Resources, mais finalement, depuis à peine 3 mois, c'est la Grand Columbia Gold qui a racheté les avoirs de la Marmato. Grand Columbia Gold, qui est également une entreprise canadienne. Mentionnons d'ailleurs que le régime de pension du Canada investit un portefeuille d'actions de 6 millions de dollars dans cette entreprise. Donc, c'est un peu l'argent de tous et chacun qui finance, si on veut, ce projet de mine d'or à ciel ouvert en Colombie. Donc, ça, c'est un peu pour placer le contexte. Il y a bien sûr une très vive opposition de la part de la population. D'une part parce que les gens ne veulent pas se déplacer, on comprendra, ils ne veulent pas abandonner leur village, leurs écoles, leur commerce, etc., toute leur économie locale. Et d'autre part, parce que les gens vivent de l'activité minière artisanale, mais depuis que les entreprises canadiennes sont arrivées, le gouvernement a déclaré illégale toute activité minière artisanale. Donc, il y a eu des opérations de police très musclées pour chasser les mineurs de leur mine. On a interdit toute vente d'explosifs dans la région. Donc, les gens qui continuent à faire de l'exploitation minière artisanale le font en créant eux-mêmes leurs explosifs. On peut s'imaginer les conséquences en termes de blessés et etc., d'accidents de travail. Et donc, il y a une opposition très forte. Et c'est là qu'intervient le curé, le père José René Restrepo, qui est... J'ai un peu de misère à traduire, sacerdoté, qui est le curé, en fait, le curé de la paroisse de Marmato. Alors, il est curé à cette place-là depuis 2 ans et il a commencé à parler contre le déplacement de la population en disant non, la population de Marmato doit rester sur place et doit continuer ses activités de subsistance, qu'on parle d'agriculture ou d'activités minières artisanales. Alors, le père, puisque c'est un curé, bon, vous imaginez qu'il y a une certaine notoriété. C'est la figure publique, si on veut, de l'opposition aux minières canadiennes dans la région. Alors, qu'est-ce que fait le père concrètement, le curé? C'est qu'il s'est rendu fin août à Bogota pour parler dans un forum public où il disait toute son opposition au projet de mine ouverte de la compagnie Grand Colombia Gold. Il a également mentionné avoir reçu des pressions de la part de la compagnie qui lui demandait de déplacer sa paroisse à l'extérieur de la zone minière pour ne plus être présent dans le conflit qui oppose la compagnie à la population. Il y a même eu des rumeurs qui ont circulé comme quoi sa paroisse était à vendre. Donc, le curé a bien sûr sorti publiquement pour dire « Je pense que c'est la compagnie qui fait circuler ces fausses rumeurs disant que ma paroisse est à vendre. Elle n'est pas à vendre et je compte rester sur place. Je compte rester avec la population locale et obtenir qu'on ait le droit de rester où on habite depuis plus de 500 ans. » Alors, c'est un peu le portrait, si on veut, du contexte qui a amené, seulement quelques jours après son allocution publique, qui a amené à l'assassinat du père René Restrepo, donc retrouvé mort sur la route près de Marmato. Les autorités disent que ce serait seulement un acte de délinquance. Ce que les organisations sociales de la place disent, c'est que c'est un assassinat politique. Donc, directement ou indirectement, ce sont les compagnies minières canadiennes qui sont impliquées. Ce sont elles qui avaient tout intérêt à voir disparaître cet opposant public à la mine.
Cette histoire s'inscrit dans un contexte, et notamment dans un contexte économique et politique particulier en ce moment entre le Canada et la Colombie, puisque c'est les débuts de la mise en application de l'accord de libre-échange. C'est quoi l'analyse générale que font les organisations de cette situation?
Pour ce qui est des organisations canadiennes, ce qu'elles demandent, c'est qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour assurer que les entreprises canadiennes rendent des comptes dans le contexte du conflit armé en Colombie, donc qu'elles ne puissent pas bénéficier, voire provoquer des violations de droits humains pour réaliser ou poursuivre leurs activités économiques. La position du PASC, du projet Accompagnement Solidarité Colombie, et de ses partenaires en Colombie, est quelque peu différente dans la mesure où on ne croit pas qu'il est possible de faire une exploitation minière. On parle de grande exploitation minière de la part de transnationales en Colombie sans qu'il y ait nécessairement des conséquences au niveau des vies humaines, au niveau de la sauvegarde du territoire, de la biodiversité, etc. Ce qu'on voit en Colombie, c'est que les entreprises transnationales qui investissent le font nécessairement avec un très grand investissement au niveau de la sécurité. C'est-à-dire d'engager des troupes de sécurité privées, habituellement formées par d'anciens militaires colombiens, des militaires qui sont formés en stratégie de contre-insurrection, c'est-à-dire qui sont formés pour contenir, détenir toute opposition. Alors, ça, c'est la partie publique. La partie qui est cachée et que les organisations en Colombie essaient de dénoncer, c'est que souvent, ces entreprises transnationales, dont les minières canadiennes, vont également avoir recours aux forces paramilitaires sur le terrain pour nettoyer le territoire, c'est-à-dire avant l'arrivée de la compagnie, on va s'assurer que sur le territoire, l'entièreté de la population a été traumatisée par des actes de terreur dont sont capables les troupes paramilitaires. On parle de torture, on parle de viol, on parle de massacre, etc. Une fois que la population est complètement terrorisée, que la plupart sont sortis du territoire face à l'entrée des paramilitaires, eh bien là, on a ce qu'on appelle un territoire pacifié, entre guillemets, c'est-à-dire où il n'y aura pas d'opposition. Parce que le contrôle social, politique est très fort, mais également le contrôle économique, puisque les paramilitaires ou voire même les éléments de l'armée nationale vont contrôler tout le transport dans la région. Il est donc impossible de poursuivre avec une économie locale autonome. Donc, il y a d'une part l'usage, ou du moins le fait que ces entreprises bénéficient de la stratégie paramilitaire avant de rentrer sur un territoire, mais il y a également plusieurs cas qui ont été très bien documentés, même certains sont allés jusqu'à des cours, où les entreprises étrangères ont directement financé les forces paramilitaires pour soi-disant sécuriser leur investissement. Encore là, les guillemets sont en rouge fluo. Un exemple concret qui concerne une Canadienne qui est tristement connue au Canada, c'est la Canadienne Talisman. Alors, vous l'avez sûrement, Talisman Energy, vous avez sûrement entendu parler d'elle pour son implication dans les gaz de schiste ou dans le nucléaire ou dans les sables bitumineux, etc. Elle a très mauvaise presse au Canada. Elle va en avoir une encore pire en Colombie puisqu'elle vient de racheter tous les avoirs de la British Petroleum. British Petroleum qui a été dénoncée au niveau international pour avoir financé à coups de millions de dollars les forces paramilitaires Autodéfense Unie de Colombie. Alors, il y a plusieurs exemples comme ça qui nous font croire que si des entreprises sont intéressées à investir en Colombie, c'est parce que elles savent qu'elles peuvent compter sur des forces privées ou publiques de sécurité qui vont lui permettre de n'avoir aucune opposition à leur projet. Et si c'est le cas, s'il y a formation d'un syndicat, bien, qui va leur permettre aussi d'avoir accès à des briseurs de grève, à des tueurs à gages qui vont éliminer toute organisation syndicale. La Colombie est encore et tristement le premier pays au monde en ce qui a trait à l'assassinat de syndicalistes. Donc, un pays où il n'y a aucun respect pour l'organisation syndicale et pour les droits du travail. C'est en fait pour cette raison que les États-Unis ne voulaient pas signer un accord de libre-échange avec la Colombie. Ça, c'est drôle à dire, mais le Congrès, les démocrates au Congrès ont toujours bloqué la signature de l'accord de libre-échange. Alors, c'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut remettre la signature de l'accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie. Quand Harper s'est rendu en Colombie la première fois pour annoncer l'ouverture des négociations sur l'accord de libre-échange, il s'est entretenu avec Uribe, l'ancien président mondialement reconnu pour ses liens avec le paramilitarisme en Colombie. Et c'était le seul président, le seul premier ministre qui a osé ouvrir des négociations pour un accord de libre-échange avec la Colombie sous le temps d'Uribe. Donc, Harper a vraiment été le seul à venir serrer la main à Uribe pour lui dire « On est prêt à négocier, nos entreprises ont soif de profit et veulent investir dans votre terre pacifiée », entre guillemets.
Donc, c'est justement aussi dans ce contexte-là que le PASC a une campagne pour directement cibler ces entreprises-là. Donc, ciblons les profiteurs canadiens de la guerre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la campagne?
Oui, bien, écoute, je pense que le nom le dit en soi. Alors, la campagne, c'est « Ciblons les profiteurs canadiens de la guerre en Colombie ». Ce qu'on entend par là, c'est bien sûr les compagnies canadiennes qui profitent ou voire provoquent la violence politique en Colombie pour le plus grand bien de leur profit, mais au détriment de la population et surtout des organisations sociales colombiennes. On entend par là non seulement les compagnies canadiennes, mais également l'État canadien, par exemple l'implication de l'ACDI, Agence canadienne de développement international en Colombie, mais également celle d'Industrie Canada, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, etc. Donc notre idée, c'est de dire ce qui se passe en Colombie, c'est pas strictement un conflit interne et c'est encore moins, comme les médias, les mass-médias le prétendent, un conflit entre un État de droit et des forces terroristes. Alors, pas du tout. C'est un conflit social et politique qui a plus de 60 ans, mais qui est alimenté par des intérêts impérialistes. Alors, j'ai pas le temps ici de décrire en quoi consiste le plan Colombie ou toute l'intervention, toute l'implication militaire des États-Unis en Colombie. Mais ce qu'on entend, nous, c'est de dénoncer en quoi il y a des intérêts économiques étrangers qui alimentent et font en sorte que ce conflit-là va perdurer et que la violence politique va être utilisée de façon systématique à grande échelle contre toute la population colombienne. Alors, on se dit, le PASC est au Canada, nous sommes des Canadiens, donc où est-ce qu'on a un impact? Bien, c'est en ciblant les acteurs canadiens qui sont cause de la guerre que vivent les Colombiens.
Alors, si on veut avoir plus d'informations sur la campagne, se tenir au courant via votre liste de diffusion?
Oui, alors vous pouvez visiter notre site web www.pasc.ca. PASC, c'est PASC.ca. Donc, PASC pour Projet Accompagnement Solidarité Colombie.ca. Et vous allez retrouver sur notre site une section qui traite des profiteurs canadiens de la guerre. Donc, je vous ai parlé brièvement de la Medero Resources, de la Grand Columbia Gold, de Talisman. Malheureusement, il y en a énormément d'autres. On suit ce que fait SNC-Lavalin en ce moment en Colombie ou la Pacifico Rubiales, une compagnie pétrolière qui, face aux demandes des syndicats cet été, a envoyé l'armée pour briser les manifestations contre elle. Donc, vous allez retrouver plusieurs cas de compagnies canadiennes que les organisations syndicales et sociales de Colombie entendent dénoncer au niveau international. Et nous, on fait la traduction et le suivi de ces cas-là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, je vous remercie.
Alors, nous étions avec Maude du projet Accompagnement Solidarité Colombie. On va prendre une petite pause musicale. Louis-Philippe, qu'est-ce qu'on écoute?
On écoute la Internacional de Sistema Sonoros Cartel de Chile.
Esclavos sin pan, vivemos todos unidos, es que estamos manipulados por la Casa Blanca, no venda su madre Colombia como esclava. Mira lo que pasó en Irak, no hay confianza, esta guerra no nos puede...